Bonjour et bienvenue dans la danse des mots, une danse qui aujourd'hui vous propose une première. C'est pas tous les jours qu'on a une première, c'est la première de la puce à l'oreille. Première puce, voilà quelque chose qui se célèbre. Une nouvelle rubrique donc que vous retrouverez dans la danse des mots tous les mercredis. Une nouvelle rubrique dont Lucie Bouteloup, notre réalisatrice, est responsable et qui interroge un certain nombre d'expressions toutes faites de la langue française dont on pense tous qu'on sait ce que ça veut dire. Et puis, mais en face de ces expressions, bien souvent on reste perplexe. Alors, vous le verrez tout à l'heure, Lucie Bouteloup a été promener son micro dans une école parisienne pour voir comment réagissaient des enfants à un certain nombre d'expressions. Mais aujourd'hui, c'est également le jour où est paru le dernier rapport sur l'état de la langue française. C'est beaucoup plus sérieux. Tous les 4 ans, un rapport dont l'Organisation internationale de la francophonie est responsable. C'est l'Observatoire de la langue française qui s'en charge et il était présenté aujourd'hui. Alexandre Wolf, vous êtes responsable de l'Observatoire de la langue française, qui est un opérateur ou une agence de l'Organisation de la francophonie.
Un service.
Et cet observatoire vient de faire paraître ce rapport très attendu sur l'état de la langue française dans le monde. Alors évidemment, la première question un petit peu naïve qu'on peut se poser, c'est combien sommes-nous à parler français? Combien y a-t-il de francophones? C'est la question qui brûle la langue. Et en fait, c'est toujours difficile d'y répondre en une phrase. Mais je vous donne un petit peu plus d'une phrase, Alexandre. Si je vous pose cette question, qu'est-ce que vous allez nous dire?
Merci. Pour satisfaire quand même votre curiosité, 274 millions. Il faut oser le chiffre, même si on a pris la précaution dans ce rapport, évidemment, d'expliquer que dans ce chiffre global, il y a des catégories de francophones. Donc tout simplement des gens qui ont rapport à la langue française qui sont de nature très différente.
Alors ça, on va y venir bien entendu, mais essayons de comparer ce chiffre au chiffre précédent, c'est-à-dire celui qui apparaissait dans le précédent rapport sur l'état de la langue française.
Alors là, c'est justement là que les difficultés commencent, puisque nous avons observé cette année à peu près une vingtaine de pays supplémentaires par rapport au périmètre étudié en 2010, donc la comparaison n'est pas tout à fait possible terme à terme, mais disons que sur le même nombre de pays entre 2010 et 2014, la progression est environ de 7%.
Oui, ce qui semble quand même très encourageant. Alors évidemment, la deuxième question importante, c'est qu'est-ce qu'on appelle un francophone? Dans votre dénombrement des francophones, quelle classe de francophones faites-vous?
Oui, c'est là qu'on a fait un effort vraiment particulier, parce que je pense qu'à la fois tout le monde sait ce que c'est qu'un francophone, un lusophone, un hispanophone, quelqu'un qui parle mais en même temps a du mal un peu à situer les projections quand on annonce des grands chiffres. On a vraiment fait un effort de définition pour penser que la galaxie francophone, qui sont ces 274 millions de personnes, est composée de différentes planètes. Il y a une première planète dans laquelle vivent les gens qui naissent en français, en quelque sorte, c'est-à-dire dont la langue de transmission familiale et le français, qu'on appelait aussi la langue maternelle, qu'on peut toujours appeler comme ça, je crois, et qui concerne finalement assez peu de pays, qui sont d'ailleurs plutôt au nord, la France, une partie de la Belgique, une partie de la Suisse, le Québec naturellement, une grande partie du Nouveau-Brunswick, sans doute Monaco, une partie du Luxembourg, mais finalement un nombre de pays assez restreint, même si ce phénomène de transmission de la langue au sein des familles commence à être observable, y compris dans des pays où elle n'était pas cette langue. La première langue traditionnellement, c'est le cas dans quelques pays d'Afrique subsaharienne, notamment dans les milieux urbains et dans les milieux qui ont fréquenté l'école, éduqué, où le français peut devenir un vecteur de transmission immédiat.
Peut-être encore un deuxième mot sur justement cette originalité. Il y a de plus en plus, même si c'est encore relativement restreint, de francophones natifs, disons en Afrique, ou ça j'imagine au Gabon, au Cameroun, en Afrique centrale surtout.
Voilà, exactement, c'est dans cette zone-là qu'on observe dans les grandes villes en particulier cette propension des parents, des mères. On a des enquêtes de terrain dans ce rapport qui ont été jusque dans les maternités demander aux mamans quelle langue ils allaient parler à leur bébé à la naissance, et le français commence à émerger. Alors on ne peut pas encore en faire un phénomène, on ne peut pas non plus tout à fait le chiffrer, mais c'est en tous les cas une indication sur la place qu'occupe cette langue dans ces pays d'Afrique subsaharienne francophone, qui n'est donc définitivement plus une langue étrangère et qui est une langue devenue africaine. Et puis il y a une deuxième planète qui est un peu plus vaste et qui inclut ces pays-là, donc essentiellement ceux dans lesquels le français est la langue officielle, soit la seule langue officielle, soit la langue officielle avec d'autres, et qui entraîne avec ce statut évidemment un environnement francophone, administratif, dans la justice, dans l'économie de proximité, dans l'école bien sûr, dans les médias, vecteur évidemment très important, et qui fait que les francophones, les populations ont un usage quotidien ou quasi quotidien du français. Donc ces deux premières planètes, qu'on peut rassembler sous une intitulée « Naître et vivre aussi en français », rassemblent les trois quarts des francophones que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire environ 212 millions de personnes qui ont un usage vraiment quotidien du français. Et puis la troisième planète, qui est le choix du français comme une langue étrangère, qui rassemble donc le restant, c'est-à-dire une soixantaine de millions de personnes, est encore plus diverse que la première et réunit aussi bien des gens qui ont appris le français à l'école, mais dont on a pu mesurer statistiquement, là nos sources sont évidemment scientifiques, qu'ils étaient capables d'avoir une conversation en français. Ils sont beaucoup en Europe, par exemple. Les statistiques de l'Union européenne, d'Eurostat, nous montrent qu'il y a, selon les pays européens, entre 7 et jusqu'à 20% de la population capable de s'exprimer et d'avoir une conversation en français. Mais ils peuvent aussi être ces centaines de milliers de professeurs de français à travers le monde, qui l'ont évidemment apprise comme des vrais spécialistes.
Il y en a combien ? Il y a pas loin d'un million, je crois, de profs de français autour du monde ?
Oui, on a du mal aussi là à faire un décompte précis, mais on est dans les proportions qu'on connaît d'apprentissage du français langue étrangère, on peut assez facilement voir le pendant en termes de maîtres en face, et effectivement il y aurait à peu près un million de professeurs de français. Et puis il y a tous ces gens qui ont appris le français pour des raisons aussi... pour l'amour de la langue, et on a de grands écrivains qui ont fait le choix du français pour écrire et qui ne l'ont pas comme langue maternelle, mais aussi pour des raisons très pratiques et très utilitaires, et c'est un phénomène qu'on voit émerger dans la question de l'apprentissage du français langue étrangère, le français utile, le français pour avoir un certificat, le français pour travailler.
Alors Alexandre Wolf, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu à l'Afrique, puisqu'on sait que c'est quand même le grand bassin de francophones et le grand réservoir. Ce sont des images qui évoquent l'eau d'ailleurs, réservoir, bassin. C'est vraiment en Afrique qu'on parle beaucoup le français. Est-ce que vous avez l'impression que le statut de la langue française en Afrique en ce moment évolue, son statut et son image, je dirais?
Alors son statut n'évolue pas du point de vue institutionnel. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vu de pays changer, sauf depuis le Rwanda, il y a maintenant bien des années, le statut du français, ni comme langue officielle, ni comme langue d'enseignement. Il est en revanche de plus en plus employé, puisqu'il y a de plus en plus de locuteurs de français en Afrique, et en Afrique subsaharienne, on a mesuré en moyenne qu'entre 2010 et 2014, la progression était de 15%, et dans certains pays, y compris le Sénégal, il y a plus de 30% d'augmentation de francophones entre 2010 et 2014. Ce qui ne veut pas dire, et j'en arrive du coup à votre deuxième question sur les usages, que les langues nationales en souffrent, et les pays dans lesquels il y a une langue nationale qui fédère une partie importante de la population, ce n'est pas toujours le cas en Afrique, mais c'est le cas au Sénégal, c'est le cas au Mali, c'est le cas dans une partie du Congo ou des Congos, la langue nationale progresse dans ses usages, mais le français progresse aussi. Et en fait, les deux vont de pair et se répartissent un peu en fonction des besoins des locuteurs, les champs d'utilisation. Et sur l'image de la langue française, c'est très intéressant de constater, on a aussi conduit des enquêtes de terrain d'image et de représentation, que le français a une image assez contrastée, qu'il est à la fois... complètement approprié, localisé en quelque sorte, pas forcément perçu comme une langue de l'extérieur, pourtant rattaché à ses origines historiques que tout le monde connaît, qu'il est parfois très marqué du sceau de l'utilité, des affaires, de la communication, et parfois rattaché à l'école, à la scolarisation. Et tout ça en comparant avec la langue nationale et l'anglais, hein, puisque nous avons fait des comparaisons sur ces trois langues, on s'aperçoit que, là encore, beaucoup de clichés ne tiennent pas, et que, par exemple, l'anglais n'est pas considéré comme une langue facile, alors que c'est souvent une qualité qui lui est attribuée. Et finalement, c'est assez logique, puisque cette langue étant faisant partie de l'environnement de ses locuteurs en Afrique subsaharienne, la langue française, elle n'est pas perçue comme difficile, pas plus que quand on a une langue qui nous arrive dans le berceau.
Est-ce que vous avez l'impression que ça reste une langue très urbaine en Afrique, ou bien justement que cette image du français, langue des villes, est en train de se modifier un peu ?
Alors c'est vrai que le français reste malgré tout une langue qui arrive par l'école dans ces pays d'Afrique subsaharienne qu'on évoque, et que donc le critère essentiel c'est l'école. Alors que ce soit zone urbaine ou zone rurale, le fait d'aller à l'école rapproche les populations du français et en font des locuteurs sereins de cette langue. Et de fait, il y a plus de facilité sans doute en ville d'abord à fréquenter l'école et puis aussi à bénéficier de l'environnement francophone que j'évoquais, c'est-à-dire d'avoir des radios, des télévisions, des journaux, et puis une communication publique en français, d'y avoir accès et de pouvoir y participer. Donc la ville favorise quand même plutôt l'appropriation du français plus vite que la campagne.
Alors bien sûr, Alexandre Wolf, on vient d'évoquer l'Afrique qu'on appelle traditionnellement francophone, dans des pays qui sont francophones, où bien sûr tout le monde ne parle pas le français, mais où on a un pourcentage assez important de gens qui parlent le français. Ce qui est étonnant aussi, et ce qui est assez sensible, me semble-t-il, c'est la progression du français en Afrique anglophone, notamment dans certains pays qui sont entourés de pays où on parle français. Je pense surtout au Ghana, mais aussi au Nigeria, peut-être plus que de l'autre côté, hein, peut-être plus qu'au Kenya, en Zambie, etc., mais peut-être aussi en Éthiopie. Alors, est-ce que justement le rapport permet de voir quelle est l'évolution de l'image du français et peut-être de l'apprentissage du français en Afrique anglophone ?
Alors, pour l'Afrique anglophone, on s'est concentré effectivement sur la question de l'enseignement, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir des données sur l'usage des langues dans ces pays-là, où on en aurait plutôt sur l'anglais, ce qui n'était pas notre sujet d'observation principal. Mais dans l'enseignement, incontestablement, comme vous le dites, il y a non seulement une demande de français pour des raisons d'environnement, pour pouvoir travailler, échanger, circuler dans des zones où il y a de nombreux pays francophones, mais aussi pour des raisons de qualité de l'enseignement. Et c'est vrai que ces pays, le Nigeria, le Ghana, que vous citiez, essayent de maintenir aux Français une position de langue étrangère apprise, de première langue étrangère apprise si possible. Elle est même obligatoire au Ghana, pour que les citoyens soient en mesure, dans un environnement régional plutôt francophone, d'être les citoyens du monde, comme on dit, et qu'ils participent en tous les cas à leur environnement de façon parfaitement assumée. Donc oui, il y a une demande de français dans ces pays-là, incontestablement.
Oui, qui fait que le français reste vraiment et devient de plus en plus une langue africaine, une langue inter-africaine.
Oui, et c'est particulièrement vrai dans les unions régionales, dans les unions professionnelles, dans les organisations sous-régionales, où le français, avec bien sûr souvent l'anglais, est une langue de communication et d'échange pour tout le continent en réalité.
Quelques secondes de musique et on y revient tout de suite avec vous, Alexandre Wolf. Alexandre Wolf, merci d'être avec nous dans la danse des mots. Alors, une des choses dont on parle beaucoup et dont on parle très souvent avec des chiffres qui font rêver mais qui sont pas toujours très sérieux, c'est les projections dans l'avenir. Combien de francophones en 2050, en 2060, peut-être après? Il y a de temps en temps des valses numériques qui donnent un petit peu le tournis. Qu'est-ce qu'on peut en dire à la lumière de ces études qu'on peut retrouver justement dans le rapport sur la langue française dans le monde que l'observatoire dont vous vous occupez vient de faire paraître?
Oui, effectivement, c'est vrai que après une longue période de désintérêt pour ces questions linguistiques, on a vu fleurir beaucoup dans les médias, mais dans les études aussi, y compris d'instituts économiques, de banques, des chiffres en rapport avec la progression des locuteurs de français en particulier, qui croyaient s'inspirer des nôtres, mais qui faisaient parfois quelques confusions. Non, je crois qu'il reste très important de distinguer la réalité d'un usage du français quotidien, quasi quotidien, qui fait partie de l'environnement des citoyens qui la pratiquent et qui concerne donc quand même plus de 30 pays, 35 pays à peu près, et qui donc constitue le noyau dur de la francophonie qui est appelée à croître. Et là, les projections peuvent être faites de manière rationnelle, objective, et permettre de dire que compte tenu de la croissance démographique de la plupart de ces pays francophones, qui sont maintenant majoritairement situés en Afrique subsaharienne, et en espérant que les progrès de la scolarisation se maintiennent, voire s'accélèrent, eh bien, il y aura 765 millions de francophones à l'horizon 2060. Voilà l'estimation raisonnable. Maintenant, le calcul que font certains, qui n'est pas non plus inepte, c'est de considérer les populations, les habitants des pays qui ont le français pour langue officielle, tout de même, il y a une restriction, non pas ceux qui sont membres de l'OIF, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, mais donc les 32 États et gouvernements qui ont le français dans leur langue officielle, et de faire une projection purement démographique de la croissance.
En gros, il ne faut pas confondre le nombre de francophones et le nombre d'habitants des pays francophones, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et ce que font certains parfois, alors cela dit, ce n'est pas inintéressant de voir que les pays dans lesquels le français est langue officielle, à l'horizon 2050, auront dépassé le milliard d'habitants. Peut-être que ce n'est pas défavorable aux français, mais ça ne fait pas des francophones purs.
Ouais. Le problème, c'est de savoir si dans des pays dont la démographie est tout à fait importante, la démographie des francophones évolue dans la même proportion. Hein, dans un pays où il y a, je sais pas, 25% de francophones, bah, s'il y a beaucoup plus d'habitants dans 10 ans, est-ce qu'il y aura beaucoup plus de francophones dans le même ratio, dans la même proportion?
Oui, et de ce point de vue-là, l'espace francophone se distingue des autres espaces linguistiques. L'espace arabophone, l'espace lusophone, germanophone, qu'on a étudié aussi dans ce rapport, mais aussi anglophone, évidemment. Mais toute chose égale par ailleurs, l'espace francophone est celui qui est le plus marqué par son africanité, à la fois en termes de croissance démographique et en termes d'assimilation de la langue, qui fait qu'il y a de plus en plus de francophones et qu'ils sont en majorité très jeunes. Donc c'est une force évidemment pour l'espace francophone, mais ça suppose de relever le défi considérable de l'éducation, de l'instruction et de qualité si possible dans un français qui restera une langue commune aux francophones.
Alors Alexandre Wolff, c'est exactement là que je voulais en venir. Ça dépend absolument de l'évolution de l'éducation. Et on sait qu'on ne peut pas tout prévoir. On sait qu'il y a eu quelques années, il y a eu une sorte de déficit d'éducation dans un certain nombre de pays, pas dans tous, mais parce qu'il y avait des situations très difficiles, parce qu'il y avait des guerres, et que donc les écoles fonctionnent moins bien, on apprend moins, donc on apprend moins le français, on forme moins de profs, donc dans la génération qui suit, c'est quelque chose qui se fait ressentir. Est-ce que, sans vouloir avoir un optimisme de commande, hein, est-ce que maintenant on est dans une situation un petit peu moins pessimiste après des passages très difficiles?
Oui, je pense. Alors évidemment, sans pouvoir prédire l'avenir, et les crises peuvent toujours survenir, mais on a effectivement une situation où dans beaucoup de pays dans lesquels la question se pose, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne francophone, les systèmes éducatifs sont stabilisés. Maintenant, ils ne sont pas pour autant en bonne santé. Et il y a un manque de moyens évident. Vous parliez de la formation des professeurs. Il est à peu près avéré que elle est insuffisante, en tout suffisante pour répondre aux besoins, en tous les cas, de la qualité de l'enseignement, et ça va de pair, évidemment, avec des professeurs qui sont recrutés pour faire face à une demande croissante, mais qui n'ont pas forcément toujours eu le temps de se former dans les meilleures conditions. Ça, c'est un premier aspect de la question qu'il faudra prendre en compte si ces pays veulent réussir d'abord leur propre développement, en formant bien leurs jeunes, et puis aussi répondre aux prévisions relativement optimistes du nombre de francophones. La deuxième dimension qui est intéressante aussi en Afrique, pas problématique à mon avis, mais à observer, c'est les variations qui interviennent sur le français, sur la langue française, dans cette langue devenue, donc comme je le disais, africaine, et donc qui subit des influences des autres langues nationales, des réalités culturelles, quotidiennes des populations qui l'utilisent, et qui donc s'enrichit considérablement, se modifie aussi parfois, va jusqu'à une création langagière qui ne serait pas forcément comprise ailleurs en francophonie. Et donc là, il y a une évolution extrêmement intéressante à suivre sur les variétés de français, à la fois peut-être pour mieux les reconnaître au niveau de tous les pays francophones, mieux les valoriser aussi, parce qu'elles sont une richesse, chacun a pu le découvrir dans les livres d'auteurs africains. Je pense à Mabankou, je pense à Kuruma, bon, mais qui peuvent aussi parfois créer des incompréhensions entre des gens qui sont supposés parler la même langue. Donc là, il y a une dynamique intéressante à suivre.
Ah oui, ça pose vraiment des problèmes. Il faut savoir à partir de quel moment on ne parle plus le français. Quand on entend en Côte d'Ivoire, à Abidjan par exemple, des gens qui parlent le Nouchi, on se dit, bon, est-ce que c'est du français ou est-ce que c'est pas du français ? Il y a un moment où, en effet, l'intercompréhension est tout à fait difficile. Alexandre Wolf, on a beaucoup parlé de l'Afrique. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'on parle le français. Un mot de l'Europe, alors ?
Oui, mais l'Europe, il y a en dehors des pays dans lesquels le français est une langue première, pays ou des territoires inscrits dans des pays où là il n'y a pas de changement significatif. Il y a autant de francophones et forcément un peu plus puisque la démographie progresse en France qu'en 2010. Ça n'a pas changé en Belgique, en Suisse, à Monaco ou au Luxembourg. En revanche. Ce qui est intéressant, c'est d'observer le français langue étrangère. Et le français langue étrangère, choisi dans les systèmes éducatifs, lui a tendance à régresser. Entre 2010 et 2014, on a constaté une baisse de 7%, alors que dans tous les autres pays, en tous les cas sur tous les autres continents, il y a des progressions, il y a des progressions parfois très importantes, notamment en Afrique, non francophone cette fois-ci, et en Asie. Mais en Europe, ce n'est pas le cas pour une raison simple, même si le français reste la deuxième langue la plus apprise au primaire et au secondaire, parce que souvent, il n'y a qu'une langue obligatoire dans les systèmes éducatifs, contrairement aux engagements qui ont été pris par les pays européens eux-mêmes, mais c'est un fait.
Et donc, là, c'est forcément l'anglais.
Et voilà. Et donc, le français disparaît, ou en tous les cas, est relégué. Et donc là, il y a un vrai danger pour l'apprentissage des langues en général. Le français est la première victime parce que c'est le premier concurrent, en quelque sorte, mais ce n'est pas la seule.
Merci beaucoup Alexandre Wolf. Je vous promettais tout à l'heure la première puce à l'oreille. Eh bien, la voici avec Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Populaire, truculente, grivoise, extravagante, folklorique, j'en passe et des meilleurs, la langue française regorge d'expressions idiomatiques qui nous régalent, nous étonne, colore et pimente notre langue au risque de la rendre parfois bien obscure aux non-initiés. Alors voilà, la puce à l'oreille se propose de vous donner rendez-vous tous les mercredis pour décrypter quelques-unes de ces expressions. Des expressions qu'on croit connaître alors qu'on se met souvent le doigt dans l'œil. Un conseil donc, ouvrez grand vos écoutilles. Aujourd'hui pour cette première, la puce à l'oreille s'est intéressée justement à cette expression « mettre la puce à l'oreille ». Il m'a mis la puce à l'oreille. Alors pour l'occasion, c'est Catherine Maury, professeur de français mais aussi auteur de nombreux ouvrages dont les expressions les plus extravagantes de la langue française paru chez Larousse qui va éclairer notre lanterne. Bonjour Catherine Maury.
Bonjour.
Mais avant d'en venir aux explications, je vous propose d'écouter quelques propositions de définition. Cette semaine, je suis allée traîner mes guêtres dans une cour d'école et voilà ce que j'ai pu entendre.
Il m'a mis la puce à l'oreille, ça veut dire qu'il m'a énervé. Parce qu'on met la puce dans l'oreille, alors la puce elle saute partout et ça nous fait mal à l'oreille. Et donc après, on est en colère, on essaie de l'enlever mais on n'y arrive pas.
Bah parce que sinon l'autre il n'entendrait rien et c'est pas gentil quand même.
En fait, il y en a un qui commence la bagarre et l'autre qui continue et du coup il lui met la puce à l'oreille et ça fait une grosse bagarre.
C'est jeter de l'huile dans le feu.
En fait... Ça veut dire peut-être, on en remet une puce pour examiner l'oreille, c'est parce que on veut voir s'il a une maladie, s'il y a quelque chose qui va pas.
Il m'a mis la puce à l'oreille, ça veut dire qu'il va épater.
Ça veut dire que la puce, elle est dans l'oreille et qu'on est un peu sourd.
Elle est dans les crottes d'oreille.
Alors Catherine Maury, on est loin du compte. Qu'est-ce que ça veut dire alors, avoir la puce à l'oreille ?
Écoutez, il y en a qui sont quand même assez près, hein, parce qu'il y en a un qui dit la puce, elle saute partout et ça fait mal à l'oreille. Donc ça, c'est assez proche. Il y en a qui ont beaucoup d'imagination. Hein, c'est jeter dans l'huile, dans le feu, elle est dans les crottes d'oreille. Enfin voilà, hein. Voilà, c'est le bon registre de l'école. Alors, donc mettre la puce à l'oreille, ben Imaginez, Lucie, on revient à l'époque où il y avait plein de puces partout, hein, parce qu'avant, elles pullulaient dans le lit, enfin partout dans la maison. Et donc, vous preniez une puce entre le pouce et l'index, vous la mettiez dans l'oreille de votre voisin, qu'est-ce qui allait se passer ? Eh bien, la puce allait piquer, donc votre voisin, pour peu qu'il soit un petit peu assoupi, allait se réveiller, et dès lors, donc, vous lui aviez mis la puce à l'oreille, c'est-à-dire que vous aviez éveillé son attention, donc vous aviez réussi, c'est ça, mettre la puce à l'oreille, c'est éveiller l'attention de quelqu'un.
Alors, j'ai vu aussi une expression qui remontait au XIIIe siècle, mais à l'époque, elle avait un tout autre sens. En fait, elle voulait dire éveiller un désir amoureux. C'est un sens d'ailleurs qu'a utilisé Jean de La Fontaine, disait « Fille qui pense à son amant absent, toute la nuit, dit-on, à la puce à l'oreille. »
Exact. Oui, non, mais c'est vrai que la puce a toujours une connotation sexuelle. Hein. Quand on dit « ma grosse puce », tout ça, enfin c'est tout à fait présent, ça.
Alors, dans quelles circonstances on l'utilise ?
Donc, étant enseignante, je vais prendre un exemple dans ma classe. Ce matin, j'ai donné une évaluation sur un roman à mes élèves, et il y en a certains qui étaient gênés par une question, et donc je leur ai mis la puce à l'oreille en leur donnant un peu des précisions, des informations pour leur faciliter les choses, pour les guider dans le bon sens.
Est-ce que vous savez, par exemple, Catherine Morey, qu'en Angleterre, on parle pas de puce, mais plutôt de punaise, ou même parfois de mouche?
Je trouve ça moins élégant. C'est-à-dire, la puce, c'est pas très sympathique, mais comme c'est un peu passé, hein, à part chez les animaux. Tandis que la punaise, malheureusement, c'est une réalité, surtout en Amérique du Nord, ça pullule, hein. Donc, et la mouche, pareil, partout. Donc, je préfère encore la puce.
Alors, on dit to put a bug in someone's ear. Ah. Donc, j'espère que personne ne fera attention à mon accent. Catherine Morey, je vous remercie beaucoup, et peut-être qu'on aura l'occasion de vous entendre à nouveau pour l'explication de nouvelles expressions de la langue française. Quant à moi, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine pour une autre puce à l'oreille. À bientôt.
Au revoir.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette danse des mots. Alexandre Wolf, qui est responsable de l'Observatoire de la langue française. Merci à Catherine Morey, et merci bien sûr aux enfants de l'école Chaumel qui répondaient aux questions que Lucie Bouclou leur posait. La danse des mots est donc, vous le savez, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Lucie Bouclou.